Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Hebdo.com, votre émission Média Pub et Com sur BFM Business. Toute l'actualité économique de nos communicants et acteurs du monde de l'information, de la diffusion et des plateformes. Hebdo.com saison 2, épisode 28, c'est parti.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au menu aujourd'hui, on commence avec un nouveau magazine digital, All Kids or Cool Kids, un média pour les familles d'enfants en situation de handicap, informatif, engagé et communautaire. On parle de ce nouveau projet avec sa fondatrice Pauline Mangin. Ensuite, ce sera Julien Casqui qui passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdo.com cette semaine. Et pour finir, quel est le sort du journal hebdomadaire Marianne ? Daniel Kretinsky souhaite-t-il vraiment s'en défaire ? Pourquoi cette communication dans les médias cette semaine ? C'est notre focus du jour, mais d'abord, j'accueille mon invitée, Pauline Mangin. Aujourd'hui, près de 2 millions d'enfants sont reconnus en situation de handicap en France. C'est 15% des enfants français qui sont touchés. Mais être touché par le handicap, c'est aussi quand on est dans l'entourage de l'enfant, qu'on soit aidant, ami ou évidemment parent. Bonjour Pauline Mangin.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la fondatrice du premier magazine Lifestyle à destination des familles d'enfants porteurs de handicap, All Kids or Cool Kids. Vous avez lancé ça il y a quelques jours à peine. Vous vous basez, vous vous calquez sur le modèle de l'engagement, de la pop culture, de la création de communautés. Comment se passe cette première semaine de lancement ?
C'est vraiment énorme tout ce qui se passe. Les gens sont à fond. Il y a beaucoup de visibilité qui est faite autour du projet et donc autour des enfants handicapés et de leur famille. Donc c'est ça, c'est génial parce que c'est vraiment notre mission, la représentation des enfants handicapés. C'est encore plus énorme que ce que j'aurais pu imaginer. On a beaucoup de visiteurs sur le site et c'est vraiment génial.
Vous êtes maman d'un enfant atteint du syndrome délétionnel 2Q37.
Oui.
Je me trompe pas.
Non.
Une forme de délétion chromosomique qui entraîne plusieurs handicaps cognitifs. Vous avez vécu, vous, ce manque d'information, ce manque de représentation. Vous êtes par ailleurs une ancienne journaliste. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi vous avez manqué précisément ? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué ? Et en quoi All Kids or Cool Kids va répondre au manque que vous avez vécu ?
Eh ben nous, donc, on est tombés dans le monde du handicap il y a 3 ans avec notre fille aînée Marie-Lou. Avec mon conjoint, on s'est vite senti désarmés. C'était ironique parce qu'on nous parlait de lutte, de combat et on n'avait pas les armes, on n'avait pas de ressources pour s'identifier, pour se représenter et aussi tout simplement pour s'aider dans le quotidien parce qu'on a tout un suivi médical en France qui est mis en place. Mais les à côté, la vie de tous les jours, il fallait chercher très loin sur Internet. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à ressentir une sorte de colère de ce manque de ressources et de représentation. Et j'ai voulu transformer cette colère en quelque chose de plus positif. Et du coup, j'ai eu l'idée de All Kids or Cool Kids, qui est là pour vraiment agréger toutes ces infos.
Et à ce moment-là, vous étiez journaliste.
Ouais, à ce moment-là, j'étais repassée dans la tech.
Dans la tech.
Je travaillais chez Google. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, si je parle pas des enfants handicapés, qui va le faire, en fait ?
Justement, qu'est-ce que contiendra l'offre exactement ? Quel est votre projet sur le long terme ? Est-ce que c'est de la production de contenu ? Est-ce que c'est de l'écriture d'articles ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est des vidéos, des émissions, des interviews ?
Alors là, pour l'instant, on débute avec entre 20 et 30 contenus par mois, mais on espère vraiment avoir une production quotidienne par la suite. On a une majorité d'articles, on a des enquêtes exclusives et on a une série d'interviews en vidéo qui seront à la fois en format long sur YouTube et sur le site et en format un petit peu plus court sur nos réseaux sociaux.
Et sur la ligne éditoriale, comme c'est un média, vous avez une ligne éditoriale, c'est engagé, c'est militant, presque. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous comptez recevoir, des ministres, des collectivités pour éclaircir les sujets ? Aujourd'hui, en travaillant un peu sur le sujet, j'ai lu, vous me corrigez si je me suis trompée, mais que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base qui est versée aux parents est de à peu près 150 euros par mois. Typiquement, est-ce que ce sont des sujets où là, vous allez prendre position, militer.
Oui, 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 bien entendu. On essaye d'ailleurs de rentrer en contact avec le ministère chargé des personnes handicapées. L'idée de All Kids or Cool Kids, c'est aussi de porter une voix unifiée. On est souvent, en tant que famille aidante et nos enfants, bien entendu, sont souvent invisibilisés dans la société, dans les médias. Et donc, du coup, on va avoir toute une partie avec des enquêtes exclusives qui va permettre d'aborder ce genre de sujet.
Comme quoi, par exemple ?
Bah là, on a lancé avec un très bon sujet de notre journaliste qui est revenu sur le consentement et les enfants en situation de handicap. En fait, comment est-ce qu'on leur explique, comment est-ce qu'on leur apprend le consentement? C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui a trait aussi aux violences faites aux enfants. Et c'était vraiment très important pour moi de débuter avec un sujet aussi fort.
Et donc, typiquement, ce genre de sujet s'adresse aux parents. Mais il me semble que vous avez fait un partenariat avec Lysio, une société qui permet d'adapter la forme et le fond du contenu à tout type de handicap. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Comment ça fonctionne? Quel est l'objectif de ce partenariat? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Et est-ce que ça veut dire qu'il y aura certains de vos contenus qui seront aussi à destination des enfants en situation de handicap?
Oui, alors Lysio, c'est vraiment une solution géniale ajoutée sur son site internet et qui permet en fait de personnaliser tous les réglages d'affichage sonore, etc. Pour s'adapter à tout type de handicap. Et ça, c'était hyper important pour moi que le site soit accessible à tous, puisque c'est vraiment ce que je prône auprès des enfants handicapés. Donc, il fallait que les parents handicapés, les familles, je parle vraiment des familles parce que il n'y a pas que les parents qui se retrouvent dans l'environnement des enfants handicapés, peuvent être eux-mêmes en situation de handicap.
Donc, c'est des contenus qui peuvent aussi être à destination de ces enfants ou c'est plus pour les familles?
C'est plus pour les familles, mais j'ai dans l'idée que les familles puissent montrer à leurs enfants qu'ils sont représentés. Par exemple, on va faire un premier shooting mode très arty avec une photographe canon. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer, clairement, je prends ma vie perso, mais c'est de pouvoir montrer à ma fille, hey, tu peux être en photo dans une campagne de mode. Tu peux...
Tu peux être mannequin. Tu peux être...
Voilà, ton histoire, elle est racontée, elle est réécrite de manière adaptée et nuancée. Et tu peux tout faire.
J'ai lu aussi que cette année, vous avez besoin de récolter 30 000 euros pour tenir un an. Ce sera quoi plus tard? Vous misez combien en chiffre d'affaires?
En chiffre d'affaires, pour l'instant, on est parti... alors, c'est une fourchette très grosse, mais entre 50 000 et 100 000 euros sur les premières années. Plus vite on va récupérer des fonds, plus vite on va faire des partenariats, du sponsoring, etc. Plus vite on va pouvoir recruter et produire beaucoup plus de contenu, acquérir beaucoup plus de trafic et offrir notre contenu en fait à beaucoup plus de familles.
Merci beaucoup Pauline Mangin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Hebdo.com et puis très bonne continuation à All Kids or Cool Kids, donc disponible sur tous les réseaux sociaux et sur le site internet. Tout de suite, c'est les news de Julien Casqui cette semaine.
Une page se tourne au sein de Publicis. Le taulier de la pub, Maurice Lévy, prend du champ. Après 40 ans à la tête de Publicis, il quitte ses fonctions de président du conseil de surveillance fin mai. C'est Arthur Sadoun qui deviendra PDG du groupe. À 82 ans, Maurice Lévy était contraint de quitter son poste, mais il restera quand même dans les parages. Il continuera à être administrateur du groupe jusqu'en 2025 et deviendra aussi président d'honneur. Cette nouvelle structure sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 29 mai. L'Union européenne se prononce contre l'abonnement payant de Meta. Après plusieurs amendes, le groupe de Mark Zuckerberg avait pourtant lancé cette nouvelle offre à 10 euros en novembre pour se conformer au règlement sur la protection des données. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas partager leurs données personnelles peuvent ainsi payer et ne pas recevoir de pubs ciblées. Cette offre est considérée comme un contournement du RGPD par les CNIL européennes. Pour se conformer au RGPD, Meta doit se concentrer sur sa version gratuite et y renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs. Touche pas à mon livre. Le secteur de l'édition est vent debout contre la pub à la télé pour les livres. Depuis le 5 avril, une expérimentation a été lancée pendant 2 ans pour autoriser le secteur de l'édition à faire de la pub sur les chaînes de la TNT. Il n'en est pas question pour le syndicat national de l'édition. Il estime que cela favoriserait les grandes maisons qui ont les moyens de faire de la pub au détriment des plus petites. L'éditeur Antoine Gallimard a lui aussi appelé au nom de la diversité à arrêter cette expérimentation. Pourtant, la publicité ramènerait les lecteurs dans les librairies, et notamment les jeunes, comme l'expliquent les chaînes de télé. D'autant que la publicité pour les livres existe déjà sur les plateformes digitales. Et on finit par Isabelle Saporta, qui n'est plus la patronne des éditions Fayard. Elle vient d'être licenciée par Hachette Livre, numéro 1 français de l'édition, détenu par Vincent Bolloré. Isabelle Saporta s'est opposée à un rapprochement entre Fayard et Mazarine, une autre maison du groupe. Mazarine qui publie notamment Éric Zemmour et Philippe de Villiers.
Cette semaine, nos confrères de la Lettre ont révélé que Daniel Kretinsky, groupe CMI, souhaiterait se séparer de l'hebdomadaire Marianne, dont il est propriétaire depuis 2018. La ligne souverainiste portée par sa patronne, Natacha Polony, est devenue trop encombrante pour le milliardaire tchèque, plutôt lui pro-européen, libéral et pro-entreprise. On en parle aujourd'hui avec Mathieu Pechberti, et journaliste à BFM Business, et Marie-Virginie Klein. Bonjour à tous les deux, merci d'être là.
Bonjour.
Dans la foulée de ce papier de la Lettre, Denis Oliven, le bras droit de Daniel Kretinsky, a donné une interview au Figaro sur le sujet en disant, entre autres, que plus Natacha Polony se rapproche de son lectorat, plus elle s'éloigne de son propriétaire intellectuellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette interview? Mathieu.
C'est sûr que cette petite phrase a fait beaucoup parler, à la fois au sein du magazine Marianne que dans le petit monde des médias. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Denis Oliven, qui dirige les activités médias de Daniel Kretinsky, est très prudent sur ce qu'il dit, mais dit quand même des choses extrêmement importantes. Je m'explique. Qu'un actionnaire dise qu'il est très éloigné de la ligne éditoriale de son titre, c'est quand même une manière de marquer une différence, de marquer un fossé, et quelque part, non pas d'intervenir, mais de marquer une différence qui lui pose problème. Il le dit d'ailleurs. Après, il dit qu'ils vont en discuter avec Natacha Polony, qui évidemment incarne extrêmement bien Marianne, et qui continuera de l'être, puisque c'est ce qu'ils disent. Mais avec cette petite phrase, quelque part, ils envoient aussi quelque part une sorte de patate chaude à la rédaction de Marianne, finalement. Ils disent, évidemment, on n'interviendra pas. Ils se défendent de vouloir intervenir, alors même qu'ils le font, en tout cas dans la parole. Et on voit le message quand même à la rédaction de Marianne que discutez-en aussi en interne, et nous, on va en discuter avec Natacha Polony. Ce qui se joue en réalité derrière ce débat sur la ligne éditoriale de Marianne, c'est l'avenir du titre. Est-ce que Daniel Kretinsky veut vraiment le vendre? Est-ce qu'il veut pousser finalement Natacha Polony à changer de ligne ou à bouger un petit peu sa ligne, ce qu'elle ne fera sûrement pas? Ou est-ce qu'il veut pousser la rédaction à avoir cette discussion avec elle?
On reviendra juste après sur l'avenir et ce qu'il veut vendre, ce que Natacha Polony ambitionne. Mais c'est un peu, en fait, Marie-Virginie... je dis que je n'interviens pas en intervenant.
Oui, alors moi j'ai trouvé que cette interview elle avait le mérite de la franchise. C'est-à-dire que, bon d'abord il ne dément pas. Il ne faut pas oublier que je pense que l'info qui a été diffusée par La Lettre, qui est un média d'investigation, n'était pas prévue. Donc c'était une surprise pour tout le monde. Et donc en réaction, ils ont convenu de faire cette interview dans le Figaro. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne dément pas l'info et il ne dément pas le fait que si... ne se trouve pas proche de la ligne éditoriale. Enfin, si la ligne éditoriale, plus précisément de Marianne, pose un problème, il se retirera. Et de cette façon-là, on pourrait lire un peu, c'est un peu l'anti-stratégie Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il est très interventionniste dans la ligne éditoriale des médias qu'il possède. Hein. Il y a eu 95 ou 90% de journalistes qui sont partis du Journal du Dimanche au moment où il l'a racheté, parce que justement, il voulait pas se soumettre à cette ligne éditoriale. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que on préfère se retirer d'un média dont on n'approuve pas la ligne éditoriale plutôt que d'essayer d'intervenir dessus. Moi, c'est ma lecture.
Mais pour l'instant, il s'est pas retiré.
Non, pour l'instant, c'est une rumeur. C'est une rumeur, mais une rumeur qu'il a pas démentie. Et là, en lisant de façon vraiment scrupuleuse l'interview de Denis Oliven, c'était très facile de démentir et de balayer tout ça d'un revers de la main. Non, il ne dément pas. Donc, ça veut peut-être dire que c'était quand même en travail.
Mathieu ?
En fait, j'ai le sentiment que Denis Oliven et Daniel Kretinsky ne veulent pas prendre de décision. Parce que quoi qu'ils décideraient, ils auraient sûrement tort. On leur reprocherait ce qu'on essaye de faire, peut-être d'intervenir ou d'influencer la ligne ou alors de décider de vendre.
Donc à la place, ils communiquent.
Oui, et à la place, ils commencent finalement, ils mettent beaucoup de sujets sur la table, ça y est, ils y sont, et ils laissent entendre que la décision va être prise par Natacha Polony. Et accessoirement, évidemment, la rédaction s'est exprimée, et donc il va y avoir un débat en interne, et que finalement, de ce débat interne découlera une décision, laquelle vente ou pas vente, ou changement de ligne. Mais finalement, eux, ils jouent vraiment, ils sont extrêmement prudents là-dessus, c'est là où ils sont assez malins finalement. Alors même qu'on comprend bien dans cette fameuse petite phrase que vous avez donnée tout à l'heure de Denis Oliven, qu'ils ne sont plus d'accord avec ce titre. Ils disent, on n'est plus d'accord, mais ça ne nous dérange pas, on va en discuter.
Justement, dans un communiqué, la rédaction s'estime être maintenue dans le flou quant à l'avenir du journal et demande des clarifications. Est-ce que cela veut dire que la rédaction s'inquiète de l'interventionnisme potentiel de Daniel Kretinsky ou s'inquiète du potentiel repreneur ?
Les deux, je crois, parce que dans les noms justement qui circulent parmi les potentiels repreneurs, il y a justement celui de Vincent Bolloré. Et donc, on sait ce que ça a créé précédemment dans d'autres médias. Donc, effectivement, quand il y a un flou, il y a un loup. Hein, c'est qu'il y a un loup, pour reprendre Martine Aubry. Mais donc, je pense qu'il s'inquiète du flou général et de ne pas savoir ce à quoi la rédaction peut s'attendre dans les prochains mois. Surtout à quelques mois des européennes. Et visiblement, la ligne éditoriale souverainiste versus pro-Europe de Daniel Kretinsky, c'est là que ça pose un problème.
Justement, est-ce que les journalistes sont en phase avec Natacha Polony, avec cette ligne-là ?
Écoutez, moi, je ne vais pas parler à leur place, mais on sent bien que de toute façon, si le sujet est sorti de cette manière, la rédaction a réagi de manière assez vive. Elle a réagi au propos de Denis Oliven, hein, mais Natacha Polony est une personnalité forte. La nouvelle formule qu'elle a faite, effectivement, même aux couleurs souverainistes, il y a du bleu, blanc, rouge dans tout le journal. C'est évident que vous n'avez jamais une rédaction totalement unie. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir à quel point l'avenir et donc la vente, très probable en réalité, de Marianne va intervenir. Est-ce que c'est Daniel Kretinsky qui veut vraiment vendre ce titre parce que Natacha Polony fait un journal qui ne lui convient pas ? Ce qui est assez vrai en réalité. Hein. Et d'ailleurs, Denis Oliven le dit clairement, c'est la seule chose qu'il dit clairement. Ou est-ce que Natacha Polony, elle aussi, aura envie d'autre chose ? C'est quand même ce qui circule quand même beaucoup depuis quelques jours.
Potentiellement, le racheter pour elle.
Voilà, ou en tout cas qu'elle aurait un projet de rachat avec d'autres investisseurs, de Marianne. Encore une fois, c'est une rumeur. Et puis, ça a beaucoup circulé par le passé. Il y avait même parlé à une époque d'intérêt de personnes autour d'Arnaud Montebourg, d'hommes d'affaires autour d'Arnaud Montebourg, de cette ligne dite souverainiste, et que Natacha Polony, effectivement, incarne véritablement.
Hein. Pour rebondir sur Natacha Polony, le sentiment, je pense, que certains ont à la lecture de cette rumeur, pour l'instant, puisque ce n'est pas encore une information, mais c'est un sentiment d'injustice quand même très fort. C'est-à-dire que le news magazine, c'est un secteur qui est quand même déficitaire en général, c'est très très compliqué, et Natacha Polony, récemment, elle a quand même travaillé à fond
une nouvelle formule
avec moins de papier, plus de digital, et elle a donné une marque de fabrique forte au journal Marianne que le journal n'avait pas avant l'arrivée de Natacha Polony.
Mais justement, c'est très récent, donc je précise que Marianne était déficitaire de 3 millions d'euros environ l'année dernière, s'est réinventée en divisant par 2 de 88 à 48 pages sa pagination et en réduisant d'un euro son prix de vente au numéro. La question du timing de ce qui s'est passé cette semaine avec cette nouvelle formule, interroge quand même.
Ah bah oui, clairement, parce que si vous êtes propriétaire d'un titre que vous voulez le vendre, à la rigueur, quelles que soient vos raisons, que ce soit financières ou éditoriales, mais en général c'est plutôt financier, vous savez, on parle quand même de milliardaires, vous ne lancez pas une nouvelle formule comme ça a été fait, elle marche plutôt pas mal pour le moment. Alors il n'y a que 4 semaines de nouveaux numéros, hein, mais les chiffres qui ont été donnés par Denis Oliven d'ailleurs dans le Figaro, c'était 28 000 ventes en kiosque versus 20 000 auparavant. Bon, après, il faut voir effectivement dans les mois qui vont suivre, mais c'est vrai qu'elle marche plutôt pas mal. Donc, effectivement, le timing est assez étonnant, mais la nouvelle formule marque aussi une ligne éditoriale qui n'ont pas à beaucoup évolué par rapport à ce qui a été avant, mais elle est plus incisive et elle est plus, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, aux couleurs de Natacha Polony. Et c'est ça aussi que Denis Oliven dit.
C'est un peu rendre belle la mariée, d'une certaine façon.
C'est la lecture qu'on pourrait avoir entre les lignes. Et en regardant de très près, c'est vrai qu'on peut se dire que tous les épisodes sont là. On renouvelle la formule, on fait circuler une rumeur de revente pour susciter des discussions en interne et aboutir à une décision.
Alors, qui pourraient être les repreneurs potentiels?
Le bruit, la rumeur dont parlait la lettre A de Bolloré et d'hommes d'affaires comme M. Sterrin qui sont proches de Vincent Bolloré, moi j'ai du mal à y croire. L'entourage de M. Bolloré a démenti, cela dit, même s'il est démenti dans ce genre de situation, il ne faut pas trop y croire non plus. Est-ce que c'est l'intérêt de Daniel Kretinsky de vendre Marianne à Vincent Bolloré, en fait? Moi, c'est la question que je me pose, j'en suis pas sûr. Après, Natacha Polony est potentiellement des investisseurs, on le verra dans les mois à venir, ça ressemblerait plus effectivement à ce qu'elle fait, où, encore une fois, elle incarne énormément le journal qu'elle dirige.
Oui, c'est devenu son journal, c'est devenu la tête du journal, donc c'est vrai qu'il n'y aurait pas quelque chose d'illogique à ce qu'elle en reprenne aussi les raids administratives et financières.
Donc elle aurait plutôt intérêt à le faire.
De son point de vue, oui. Oui, puis elle est. Non, mais c'est vrai que elle ne fait pas que diriger un journal, c'est une personnalité quasi politique. On l'a bien vu pendant des années où quand elle intervient, c'est plus qu'une chroniqueuse, c'est une éditorialiste avec des idées très fortes et qui du coup frôle vraiment l'espace politique, quoi.
Merci pour cet éclairage. Merci Mathieu Pechberti, journaliste BFM Business, Marie-Virginie Klein, conseillère en communication et fondatrice d'Iconique. Alors, tout autre chose, mais comme d'habitude, on termine avec notre campagne préférée qu'on a sélectionnée avec CBNews cette semaine. Et aujourd'hui, il s'agit d'une pub qui allie humour et grande cause face à la hausse des IST, des infections sexuellement transmissibles. Les laboratoires pharmaceutiques Majorelle ont fait appel au rappeur Al Capote, dont le nom se marie parfaitement avec l'opération. Je vous laisse avec cette campagne signée Buzzman et vous souhaite un très bon week-end sur BFM Business.
Je prévois bientôt une tournée gratuite dans toutes les pharmacies de France.
Alors, il n'y a pas de concert?
Non, il n'y a pas de concert. Al Capote, c'est pas gratuit. T'as craqué ou quoi?
Je ne ris plus.
Al Capote gratuit dans ta pharmacie?
Non.
Mais les capotes gratuits dans les pharmacies pour les moins de 26?
Oui. T'as bien moins de 26 ans, toi?
89.
Tu peux me récupérer une boîte de préservatifs?
Oh. Protégez-vous, jeunes puceaux. Sortez plastiqués. Parole d'empereur.
T'as bien moins de 26, toi?
Va me chercher une boîte de podcast.
C'est pas comme ça qu'on se protège, monsieur.
Okay. Profitez-en. C'est la qui paye.
Tiens, moi, prends pour toi. C'est pour vous.
Vous pouvez se protéger, madame.
Ça sert plus à rien, hein.
Je retrouve le chemin dans les labyrinthes. Moteur, 4 cylindres, je vais plus vite que dans Taxi 5.
Ah, manifestement, cette jeune mère au foyer n'a pas reçu l'information.
Hebdo.com sur BFM Business.